Vous écoutez France Culture.
Sophie Tobar, puisque nous voilà à la première semaine du mois, d'un mois que nous consacrerons beaucoup à un tour de France des élus locaux et des diverses questions qui se posent à eux et des différentes actions qu'ils peuvent entreprendre. Et pour démarrer cette série, eh bien, nous parlons aujourd'hui d'énergie. Énergie et collectivités territoriales, on pourrait évidemment se demander pourquoi on a choisi d'associer les deux, d'autant que l'ADEME lance ce mois-ci une grande campagne « Faisons vite, ça chauffe » et que dans le dossier de presse qui accompagne le lancement de cette campagne, j'ai relevé quelques informations qui me paraissent intéressantes. Tout d'abord, le fait que, afin de respecter son objectif de Kyoto, la France s'est dotée d'un programme de lutte contre le changement climatique et puis diverses actions. On termine le paragraphe en disant une performance qui fait de la France l'un des pays à pouvoir atteindre l'objectif fixé par le protocole de Kyoto. Donc, du côté de l'État, tout va bien, on a la situation bien en main. Et puis, paragraphe suivant, des efforts à poursuivre et à renforcer, deux points. Le comportement des ménages n'est pas encore assez orienté vers les économies d'énergie. Donc là, on a le sentiment que du côté des individus, vous, moi, nous tous, en revanche, on n'est pas tout à fait à la hauteur. Alors, plutôt que d'entrer dans ce face-à-face qui voudrait d'un côté un État extrêmement actif, un peu triomphaliste, et de l'autre une population un petit peu à la traîne, difficile à secouer, il m'a paru intéressant d'interroger nos invités sur cet échelon intermédiaire qui est celui des collectivités territoriales. Alors ça va de la commune à l'agglomération, la communauté de communes, évidemment. Deux invités qui, à des titres divers, ont travaillé sur ces questions-là depuis longtemps et de manière extrêmement pragmatique. Et je pense que c'est ça qui nous intéressera ce soir, c'est ce regard que vous avez l'un et l'autre sur des actions qui sont entreprises à l'échelle des collectivités. Alors, premier invité, c'est Gérard Magnin. Gérard Magnin, on vous connaît pour être délégué général d'Énergie-Cité, une association qui regroupe 500 municipalités environ dans 30 pays européens et des municipalités dont les autorités se sont engagées dans une démarche de politique énergétique local, durable, les deux adjectifs vous conviennent aussi bien l'un que l'autre et on verra qu'ils sont effectivement liés. Et puis, vous êtes le co-auteur d'un petit livre qui est sorti récemment et qui est, me semble-t-il, un manuel extrêmement clair et intéressant pour un grand public. Un livre intitulé « Pour un nouvel urbanisme, la ville au cœur du développement durable » que vous avez co-écrit avec Denis Clerc, Claude Chalon et Hervé Vouillot, aux éditions Yves Michel. Autre délégué général, c'est Nicolas Garnier. Vous êtes délégué général d'Amorce, une association loi 1901 qui a été créée en 1987 et qui regroupe, là encore, des collectivités territoriales, 314, je crois, si je ne m'abuse, plus de 55 millions d'habitants en France. Et c'est véritablement, là encore, une association qui tente de regrouper les collectivités qui s'intéressent à bon nombre de questions d'environnement. Il y a les déchets. Je pense que ça a même été un des premiers sujets sur lesquels vous avez été amené à vous pencher. Et puis, les questions d'énergie et de climat. Donc, dans les deux cas, des collectivités territoriales. Mais on va peut-être d'abord commencer par interroger la pertinence de cet échelon. C'est ce que je disais. Gérard Magnin, le titre pour un nouvel urbanisme, vous me racontiez en préparant cette émission que vous aviez hésité parce que le mot d'urbanisme est un mot qui effrayerait ou en tout cas qui ennuierait plus exactement.
Disons que le mot urbanisme n'est peut-être pas un mot très vendeur pour le grand public, mais néanmoins on a voulu le garder parce qu'on a envie précisément de montrer une autre image de l'urbanisme, c'est-à-dire une image qui n'est pas technique, une image qui n'est pas planche à dessin ou dans sa version moderne de l'ordinateur, mais qui soit vraiment une composante politique de l'organisation urbaine, de l'organisation périurbaine, et une question finalement qui intéresse tout le monde et qui doit absolument sortir d'une sphère de spécialistes, parce que on s'aperçoit que quand on jette un petit peu un retour en arrière, quand on a un peu un retour en arrière sur notre pays, que on a dans les années fin des années 50 et 60 innové dans l'urbanisme, dans la création des UP et de ce qu'on appelle aujourd'hui les grands ensembles, mais ça a été globalement une première innovation urbanistique. On peut dire qu'elle ne donne pas les résultats après 40 ou 50 ans qu'on attendait, mais à l'époque, elle a été d'une certaine façon une réussite parce que, en l'espace de très peu de temps, on a pu résoudre un certain nombre de problèmes.
Mais depuis cette date, peur, je vous en prie. Ce qui ferait peur, ce serait moins l'urbanisme que les résultats de l'urbanisme.
Absolument. Alors, c'est-à-dire que, je veux dire par là,
avant de rentrer dans les détails justement de cette histoire urbanistique, moi j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi vous qui êtes véritablement quelqu'un qui s'intéresse avant tout aux questions d'énergie, pourquoi est-ce que vous avez voulu parler d'urbanisme ?
Alors, on a voulu parler d'urbanisme parce que les consommations énergétiques, pour une très large part, se réalisent, pour toute leur part, se réalisent sur des territoires. Parce qu'il n'y a rien qui se consomme nulle part que posé sur un territoire. Une partie importante des consommations qui se font sur ces territoires sont en fait le résultat de choix qui surdéterminent ce qu'on voit être les consommations des uns et des autres. Si je consomme beaucoup dans mon appartement, ça peut être parce que individuellement, je ne suis pas un bon gestionnaire, mais ça peut être aussi et surtout parce que le bâtiment qui a été construit n'a pas été construit pour me rendre une vie économe. Si je consomme beaucoup dans le déplacement, c'est peut-être parce que je ne choisis pas le bon mode de déplacement, mais c'est aussi parce que je choisis l'unique mode de déplacement qui m'est rendu possible, parce qu'on n'a pas organisé la vie de telle sorte que je puisse, pour aller vite, tout faire à pied depuis où j'habite. Et que j'ai dû peut-être m'exiler un petit peu plus loin parce que le prix du foncier était trop élevé. Et qu'aujourd'hui, j'en paye les conséquences. Et en fait, on s'aperçoit que les consommations énergétiques, qui pour environ les trois quarts se déroulent en milieu urbain, périurbain, etc., sont en grande partie surdéterminées par des choix. Et ces choix ne concernent pas seulement les objets qui sont posés sur le territoire, je veux dire les bâtiments ou les objets qui roulent sur les territoires, les véhicules, mais c'est le système d'organisation urbaine dans son ensemble qui va surdéterminer, qui va façonner la façon dont je vais consommer. Donc la raison essentielle, c'est un peu de sortir du schéma selon lequel on associe assez facilement, quand on parle d'énergie, énergie, bâtiment, si on fait bâtiment basse consommation, ça ira bien. Bien sûr, on doit faire ça, mais on s'aperçoit que les consommations sur un ménage, il y a une étude de l'ADEME qui a été publiée il y a quelques jours, et qu'un ménage en moyenne émet environ 15 tonnes de CO2. Moitié, c'est pour les transports majoritaires, le chauffage un peu moins, et ensuite aux chaudes sanitaires, et moitié pour les transports de marchandises que je vais acheter, et l'énergie que je vais consommer au travail. Et on s'aperçoit que, par exemple, les transports que je vais générer ma consommation va être à peu près équivalent à mes dépenses pour le chauffage, à mes émissions pour le chauffage de mon bâtiment. Donc en fait, on s'aperçoit quand on prend l'ensemble que on ne peut pas se laisser aller à réduire uniquement la question énergétique à une question qui serait une question de bâtiment, une question qui est très importante mais qui est réductrice, et que là les autorités locales, les collectivités locales ont un rôle extrêmement important à jouer parce que l'urbanisme, l'organisation urbaine est entre leurs mains, plus exactement, elle est entre les mains des communes, elle n'est pas entre les mains des intercommunalités, là où pourtant se passent les flux, et c'est peut-être un des problèmes que nous avons à résoudre dans notre pays.
Bon, eh bien, nous allons l'aborder dans un moment, mais puisque vous amenez le périscope sur les élus et sur le rôle important qu'ils ont à jouer, on va se tourner vers Nicolas Garnier, puisque votre association Amorce a publié récemment une plaquette à destination des élus, justement, qui s'intitule « L'élu, l'énergie et le climat ». L'essentiel de ce que les collectivités territoriales doivent savoir. Et c'est là encore un livre extrêmement précieux, une sorte de manuel qui guide pas à pas l'élu dans les méandres des questions énergétiques. Et peut-être en préambule, pourriez-vous nous dire pourquoi il vous a paru nécessaire de rédiger cet ouvrage ? J'avais le sentiment un peu en le lisant que vraisemblablement, peut-être du côté des élus, il devait y avoir une certaine méconnaissance de ces questions-là et peut-être une certaine timidité ou inquiétude à s'en emparer.
Oui, vous avez parfaitement raison. Il faut bien parler de méconnaissance et pas d'ignorance. En réalité, les élus sont touchés quasiment dans tous les services publics qu'ils gèrent par des questions d'énergie. Nous étions ce matin dans une réunion où on était avec des CCAS, des centres de l'action sociale. Vous me direz, on parle de pauvreté, on parle... Non, la question essentielle, c'était aujourd'hui le nombre de familles qui ne payent plus leurs factures d'énergie. Il y a aujourd'hui en France à peu près 2 millions de foyers qui ne savent plus payer leurs factures d'électricité et de gaz. On les retrouve où ? Mais forcément dans les centres d'action sociale des communes. Et effectivement, le réflexe un peu naturel que peut avoir un élu sur un sujet très précis comme celui-ci, c'est de payer la facture. Finalement, de ne pas se poser vraiment la question de savoir pourquoi ces gens n'arrivent pas à payer la facture. Il y a certains problèmes financiers, mais c'est souvent aussi un problème de consommation. De consommation d'énergie, parce que ces gens vivent dans des logements, certains qu'on nomme insalubres, d'autres indécents, pour la plupart extrêmement consommateurs d'énergie. Et donc, il s'agit aujourd'hui de leur dire, effectivement, l'énergie vous concerne à chaque fois que vous prenez une décision, quasiment. Vous prenez une décision sur les transports, vous prenez une décision sur une école maternelle, vous prenez une décision sur un parking, vous prenez une décision sur un centre d'action sociale, une piscine, tout concerne de l'énergie, puisque tout consomme de l'énergie, soit pour les équipements, soit pour les gens qui vont être dedans. Et que la difficulté, c'est que ben, pendant presque 50 ans, c'est l'histoire de la France qui veut ça, on a eu deux grands opérateurs qui ont parfaitement rempli leur mission de service public lorsqu'on les a créés durant l'après-guerre. En 1946, on a créé EDF et GDF. À un moment, on s'est dit, il faut qu'on rationalise un peu nos problèmes d'énergie. Il faut savoir quand même qu'avant 1946, c'était les collectivités locales, c'était les communes qui produisaient leur électricité. Il y avait beaucoup de barrages, de petits barrages généralement faits sur la base de moulins. C'était d'anciens meuniers. Il y avait pas mal de barrages, il y avait aussi beaucoup de centrales thermiques, centrales charbon, etc. Et puis en 1946, on se dit, il faut qu'on regroupe tout ça dans deux structures. Et pendant 50 ans, la culture a été plutôt, vous occupez de rien, on s'occupe de tout. On s'occupe de tout, ça veut dire on s'occupe de tirer les lignes, on s'occupe d'amener l'électricité partout dans la France. Vous aviez besoin d'électricité au fin fond de territoires ruraux, parce que Gérard a abordé la question des territoires urbains, mais la question des territoires ruraux n'est pas moins importante en fait.
Et
c'est vrai que pendant 50 ans, finalement, on a consommé de l'énergie. On l'a consommé sans trop se poser de questions, ni du prix, parce qu'on a une électricité qui n'est pas chère.
Vous dites consommer,
impacts...
vous pourriez dire gaspiller ?
On peut dire gaspiller, oui. On peut dire gaspiller assez facilement. Ni des impacts environnementaux, qui n'étaient pas, j'allais dire, au centre de nos débats. C'est que très tard qu'on s'est posé la question du changement climatique, mais aussi tout simplement de l'impact des lignes à haute tension, mais aussi des émissions d'oxyde d'azote, par exemple, dans les villes. Et aujourd'hui, effectivement, nos élus, finalement... Au fur et à mesure de cette évolution, on a vu émerger ces questions à la fois économiques, environnementales, sociales, urbaines. Et on posait pendant longtemps des questions de manière assez dispersée. Et il nous a semblé utile, dès 2001, de rédiger, puisqu'en fait c'est une deuxième édition, un peu améliorée. D'ailleurs, le mot climat est apparu dans cette édition-là, alors qu'elle n'était pas dans 2001. Comme quoi, Kyoto est passé par là, mais avec 10 ans de retard. Il nous a paru intéressant d'essayer d'organiser la réflexion. D'organiser leur réflexion en disant, vous savez, finalement, il y a un problème de production, il faut produire cette énergie, il faut la distribuer sur nos territoires, il faut la consommer. Et tout ça, c'est lié à deux autres éléments majeurs que sont l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Donc, rassemblons tout ça pour avoir une espèce de réflexion un peu générique, un peu générale, et pour créer les bons réflexes. Les bons réflexes, à chaque fois, je vous dis, on fait une piscine qui, il y a 20 ans, se disait au moment de faire une piscine, et si on faisait un panneau solaire dessus ? Ou est-ce que si on faisait une couverture solaire ? Personne. Et aujourd'hui, ça rentre dans les mentalités. Donc, c'est pour ça, c'est pour créer des réflexes. Et vous verrez qu'il y en a plein de réflexes parce qu'on est dans une période un peu de mutation importante. C'est-à-dire que l'écologie ne voulait pas dire grand-chose. Aujourd'hui, l'écologie veut tout dire. Et on est un peu dans une période, ce que j'appelle moi la période des marchands du temple. C'est-à-dire que les marchands du temple, c'est que maintenant, vous avez des logos verts un peu sur tous les produits, et en particulier sur l'énergie. Et il va falloir qu'on commence à avoir un regard critique sur tout ça, parce qu'on peut vous vendre un peu n'importe quoi sous couvert d'écologie. On vous vend beaucoup de matériel dans le domaine de l'énergie qui n'économise rien comme énergie, qui émettent un certain nombre de polluants. Mais comme il y a marqué éco quelque chose dessus, eh bien forcément, ça peut tromper la population, donc l'élu également. Les chers reviendraient peut-être.
Oui, certainement. En tout cas, je remarque que l'un et l'autre, vous avez commencé votre exposé, si j'ose dire, en partant spontanément de la consommation et non pas de la production. Vous, Nicolas Garnier, vous avez fini par arriver aux questions de production en rappelant que les communes avaient été productrices pendant très longtemps, avant que EDF et GDF s'occupent de tout à notre place. Mais de fait, ce regard qui vous fait partir de la consommation, il donne un axe très particulier à toute votre réflexion. Et je pense que ça va être important de revenir dessus. Deuxième remarque, l'un et l'autre, vous avez évoqué le fait que nous étions les héritiers d'une situation qui remonte à l'après-guerre, donc à maintenant plus de 50 ans, une situation qui est extrêmement lourde. Vous avez évoqué les questions d'urbanisme, la nécessité de construire vite, haut et fort, et de fait, il va falloir revenir sur ces questions d'urbanisme. Gérard Magnin, et puis vous, Nicolas Garnier, vous avez évoqué la création d'EDF-GDF, qui aussi ont contribué à structurer de manière colossale l'utilisation, je dis l'utilisation parce que c'est à la fois consommation, production, distribution d'énergie en France. Donc cet héritage, est-ce qu'on pourrait peut-être le camper un peu plus en détail, expliquer de quelle manière il a vraiment façonné les choses ? Pour essayer de mieux comprendre comment aujourd'hui on peut le secouer, le laisser de côté éventuellement. Gérard Magnin, peut-être on pourrait commencer sur l'urbanisme avec cet élément essentiel que vous avez là encore évoqué l'un et l'autre, la question des transports aussi, c'est-à-dire c'est le bâti, le transport.
Pour reprendre le mot héritage, je pense qu'on est à la fois héritier effectivement de ce qui se passe dans son propre pays, et on est à la fois héritier de tendances qui débordent largement notre pays. On peut dire que pendant les 50 dernières années, on a mesuré le progrès à la capacité qu'on avait à s'abstraire de son environnement naturel en termes de ressources, en termes de rejets. C'est-à-dire qu'en fait, on a fabriqué une société hors sol. Comme dit Nicolas, on amène tout, le gaz, l'électricité, tout arrive. On peut faire n'importe quoi, n'importe où, indépendamment de l'environnement naturel, et ensuite on amène des tuyaux là-dedans et ça marche. Et en fait, on a mesuré le progrès à ça parce que pendant une période de l'humanité, se libérer des contraintes de ressources énergétiques, ça a été considéré effectivement comme une libération qui a permis de faire des choses qu'on n'était pas capable de faire avant. Mais on a poussé ça complètement à l'extrême, c'est-à-dire qu'on n'a plus à aucun moment pris en compte dans une construction, dans un aménagement, dans un ensemble urbain, le fait qu'il y avait un environnement naturel avec lequel on devait travailler. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on rentre un peu dans une nouvelle phase dans ce domaine-là, et ça c'est une tendance, encore une fois, qui n'est pas qu'une tendance française, bien entendu, mais on commence à mesurer le progrès, peut-être je vais un peu vite en besogne, mais par la capacité à se réconcilier avec ses ressources et avec ses rejets. On commence à entrer dans une période où on mesure ses consommations, où on mesure ses rejets, on mesure l'empreinte écologique, etc. Et donc, petit à petit, aujourd'hui, se recrée un peu une forme de relocalisation des approches.
Certes, mais il me semble tout de même, Gérard Magnin, qu'on peut se sentir légitimement captif de cet héritage. C'est-à-dire que, de fait, il y a une prise de conscience et, de fait, il y aurait la volonté D'autant plus compréhensible qu'aujourd'hui, un plein d'essence coûte très cher, par exemple. Il y aurait cette volonté de réduire les consommations d'énergie. Mais comment faire ? C'est-à-dire, comment sortir de ce discours culpabilisant que j'évoquais un petit peu tout à l'heure en parlant de cette campagne de l'ADEME, pour arriver à un discours qui donne les moyens, les voies de s'en sortir ?
J'en reviens peut-être à des choses qui sont plus spécifiquement françaises, même si elles ne sont pas uniquement françaises à cet égard. On a construit notre organisation urbaine et périurbaine dans les 50 dernières années sur deux bases. C'est la base de l'accession automobile et sur la base de l'énergie pas chère. Donc, pendant les 40 dernières années en France, la surface bâtie des agglomérations s'est accrue de 75%, alors que la population s'accroissait de moins de 25%. C'est-à-dire qu'on a utiliser de l'espace comme si c'était n'importe quelle ressource renouvelable, on l'a utilisé et on l'a paralysé pour des décennies, voire des siècles, parce que c'est des choses qu'on fait qu'une fois. Donc ça, c'est un élément de l'héritage. Et par rapport à l'histoire que nous avons eue dans l'urbanisme en France, avec les grands ensembles qui, je le disais au début, ont été, à un moment donné, un succès très important, et qui maintenant produisent au moins à certains endroits, un certain rejet. Quelle est l'alternative qui est proposée aujourd'hui ? L'alternative, quand on parle d'accession à la propriété pour les familles qui habitent à cet endroit, est toujours formalisée en termes de maisons individuelles. C'est-à-dire que l'antidote du grand ensemble où on ne veut plus être, c'est la maison individuelle, alors qu'elle s'appelle à 150 000 euros, à 100 000 euros, qu'elle s'appelle à 15 euros par jour, ça ne change pas grand-chose à l'affaire, elle va toujours se trouver plutôt loin de là où on habite, et de toute façon, on va doubler ou tripler par les déplacements et par la mauvaise qualité énergétique de bâtiments si peu chers, cette espèce d'illusion d'accession à la propriété. On n'a pas innové dans l'urbanisme depuis les grands ensembles, et c'est aujourd'hui seulement avec les notions d'éco-quartier ou ceux qui se discutent autour de ça, qu'on est en train d'essayer de réinventer pour la première fois quelque chose qui peut avoir une nouvelle cohérence urbaine. Entre-temps, on a posé des objets sur des territoires, mais on n'a pas organisé la vie urbaine. Donc on est aujourd'hui dans une situation où le piège se referme, en particulier par rapport à cet étalement urbain.
Voilà, vous dites on a posé des objets. Quand on commence à énumérer ces objets, on s'aperçoit de l'ampleur de la tâche. Les objets en question, ce sont les équipements de style école, hôpitaux, etc. Ce sont les centres commerciaux, ce sont les lieux de loisirs, ce sont les lieux de travail qui ont été mis loin, très loin des habitations. C'est-à-dire que, de fait, aujourd'hui, le territoire tel qu'il est organisé exige des déplacements, exige un usage de l'énergie qui est de l'ordre du gaspillage effréné et éhonté. Alors, Nicolas Garnier, je vous vois acquiescer avec un petit sourire, mais je veux dire, je parlais tout à l'heure de la difficulté des citoyens qui se sentent captifs de cette situation et qui n'aiment pas trop se sentir montrés du doigt, alors même qu'ils ne sont absolument pas responsables de la situation et qu'ils aimeraient bien faire autrement. Mais les élus, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'ils ont eux aussi hérité de cet urbanisme, soit de grands ensembles, de bars, de tours dont beaucoup de gens ne veulent plus. Attention, vous avez raison de dire que c'est pas si évident que ça. Ça n'est pas très systématique. Et vous citez d'ailleurs des chiffres gérardmanniens qui sont tout à fait intéressants. On s'aperçoit que finalement, relativement peu de gens souhaitent quitter les ensembles où ils vivent. Et le petit pavillon de banlieue, ça me suffit, qui n'a pas l'air finalement de résoudre la situation. Alors les élus face à ça ?
Je vais vous répondre par une phrase classique, les élus représentent la population.
Ah non, non,
vous ne me répondez pas par cette phrase-là. Les élus représentent la population. Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en réalité, si les élus ne sont pour l'instant pas si mobilisés que ça, c'est que la population ne s'est pas mobilisée spécifiquement sur ces questions d'énergie parce que peut-être on ne lui en a tout simplement pas donné les moyens. Je vous écoutais là, dans le début de la discussion, on a l'impression de parler d'une addiction en fait. Hein. On est en train de parler d'une drogue. Hein. C'est-à-dire qu'on a créé pendant 50 ans un territoire dans lequel on s'est permis d'avoir un certain nombre de services pour un coût très faible finalement, et on s'est construit des maisons à 20-30 km de là où on habitait, etc. On s'est créé une drogue. Et le problème aujourd'hui, c'est de sortir de cette drogue. Mais le problème, c'est que c'est pas évident quand on est dedans et que vous prenez votre voiture le matin et que vous dites, moi aussi j'aimerais bien aider la planète, mais il faut quand même que j'aille travailler à mes 30 km vu que j'ai acheté ma maison il y a 10 ans et qu'il faut que je finisse de la rembourser, etc. Donc la difficulté, c'est effectivement la difficulté du drogué qui doit à un moment donné rompre avec une habitude et se demander s'il est capable de vivre autrement. Et même si, et c'est un peu aussi ça, cette période de transition dont on parle souvent, c'est qu'on vit une période un peu de confusion. D'un côté, vous prenez 10 personnes dans la rue, ils sont tous persuadés qu'ils peuvent faire beaucoup pour l'environnement et pour les questions d'économie d'énergie. En même temps, si vous grattez un petit peu, dans le meilleur des cas, ils ont une action qui est, soyons un petit peu politiquement incorrect, un peu action alibi. Je ne vous parle pas de fermer l'eau du robinet quand vous brossez les dents, mais c'est à peu près de ce niveau-là. Vous n'êtes pas en train de sauver la planète. Vous faites un geste qui montre que vous êtes sensible. En termes d'efficacité, ce n'est pas le sujet. Oui, vous pouvez éteindre, si on veut revenir aux questions d'énergie, vous pouvez éteindre votre lumière avant d'aller vous coucher, mais ce n'est pas là-dessus
que ça joue.
Alors, simplement, après, la question, c'est effectivement de savoir déjà quels sont les grands enjeux. Gérard en a parlé tout à l'heure. La France consomme à peu près 160 millions de tonnes équivalent de pétrole. Si on se dit, allez, c'est quoi le principal poste ? Comme un bon père de famille qui se dit, c'est quoi ma principale dépense ? Qu'est-ce qu'il faut ? Sur quoi il faut que je travaille ? Première dépense, le chauffage. Première dépense, le chauffage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut arriver à inculquer aux populations, donc ça viendra aux élus, le fait que nous nous chauffons de manière désastreuse. Désastreuse. Nous consommons aujourd'hui des quantités de fuel, de gaz, mais aussi d'énergie renouvelable. Et vous verrez qu'un jour, les énergies renouvelables ne veut pas dire utilisables à foison. Si vous avez une forêt pas loin, si vous commencez à vous dire j'ai une cheminée au bois, alors je vais pouvoir utiliser tout bois que je veux. Non, vous avez quand même une forêt à côté. Donc c'est renouvelable, mais ça vous interdit pas d'être un peu rationnel dans son utilisation. Et on se rend compte qu'en réalité, la grande question, c'est la manière dont on consomme et non pas la manière dont on peut utiliser des énergies renouvelables. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en termes d'information, on a des éléments qui sont très confus. Très, très, très confus. On vous parle de pompes à chaleur, on vous parle de solaire, on vous parle d'éolien, on vous parle... Alors que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Les enjeux, l'exemple le meilleur actuellement, je le stigmatise un petit peu, c'est la question de la pompe à chaleur. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais en gros, une pompe à chaleur, ça consiste à prendre 1 kWh d'électricité pour produire 3 kWh de chaleur. Hein, en utilisant un fluide qui généralement est de l'air ou de l'eau qu'on a pris dans le sol ou dans l'air. Le problème, c'est mais comment vous avez fait votre kilowattheure ? Le kilowattheure de départ, il ne vient pas de nulle part. En réalité, ce kilowattheure, il est soit nucléaire, soit fait avec du gaz ou du charbon. Et manque de chance, la thermodynamique est ainsi faite que les rendements sont environ de 30%, ce qui veut dire que votre kilowattheure, il en a fallu 3 pour produire votre kilowattheure. Vous me voyez arriver ? En fait, pour finir avec 3 kilowattheures de chaleur, il vous en a fallu 3. Économie zéro. Mais tout le monde parle de pompe à chaleur, parle de géothermie, alors que la géothermie, c'est pas ça. La géothermie, ça consiste à aller chercher vraiment de la chaleur. Au fond, par exemple, vous savez que sous nos pieds, ce soir, nous avons une grande nappe d'eau, à peu près à 1000 mètres, qui s'appelle le Doguer, qui alimente aujourd'hui une grande partie de Fresnes, de Cachan, donc des collectivités locales. Et tout ça, c'est des initiatives locales qui sont allées puiser cette nappe d'eau chaude, hein, qui sort entre 80 et 100 degrés, pour alimenter des logements. J'en citerai d'autres, Chevilly-la-Rue, etc. Donc tout ça sont chauffés par des nappes d'eau chaude. Mais là, on va vraiment chercher de l'eau chaude. Dans le cas d'une pompe à chaleur, on prend de l'eau à 10 degrés. Moi, 10 degrés, je n'appelle pas ça chaud, je ne me chauffe pas avec 10 degrés. En fait, après, on compresse cette eau ou cet air pour en faire du 30 degrés ou du 35 degrés. Donc à chaque fois, on a l'impression dans cette période, mais il faut y voir le bon côté des choses, on va essayer d'être positif, le fait que devant cette montée des sensibilités environnementales et des problèmes énergétiques, le marché, au sens large, s'est structuré pour faire des offres. Simplement, ces offres, aujourd'hui, il faut à chaque fois regarder si elles ont vraiment une efficacité. Donc, un peu comme vous achetez une voiture, être sûr qu'elle fait bien du 6 litres au 100, il faut bien regarder également si votre emballage est vraiment recyclé ou recyclable. C'est l'autre sujet du Grenelle, donc on ne va peut-être pas aborder aujourd'hui, mais enfin, il y a un amalgame sur la question du recyclable, recyclé régulièrement. Hein. Et bien là encore, il faut savoir si on parle vraiment d'une économie d'énergie ou pas, et d'énergie renouvelable ou pas. Et là, on a besoin d'outils, on espère y participer avec ce genre de guide, d'outils pour évaluer effectivement la pertinence de tel ou tel outil. Mais le deuxième élément, effectivement, si on veut prendre la responsabilité des élus, c'est qu'à un moment donné, il faut se réapproprier la question. Je vous ai dit qu'avant 1950, c'était nous qui assumions la gestion de l'énergie sur notre territoire. Et puis après, on nous a demandé de moins s'en occuper. Et encore une fois, ce n'est pas pour tirer sur l'ambulance, sans compter que l'ambulance, elle rapporte beaucoup d'argent à l'État aujourd'hui. Donc on ne va pas tirer dessus. Ils ont fait leur travail. Simplement, ça a déresponsabilisé complètement les territoires et les populations. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, nous, c'est vous êtes responsable légalement. Vous êtes responsable des tuyaux, les câbles électriques qui sont dans la rue, là, le tuyau de gaz qui est sous nos pieds, il appartient aux collectivités locales. Hein, c'est la loi de 46 qui le dit, il appartient aux collectivités locales. Il faut savoir que nous n'en avons pas les plans, c'est bête. Ça veut dire que nous ne savons pas où passe le gaz, où passe l'électricité. Je rentre de Lyon, vous savez qu'il y a eu un grave...
Les collectivités qui sont propriétaires des tuyaux n'en ont pas les plans.
Non.
Qui les a ?
EDF, GDF, et encore, pas sûr. Pas sûr, parce qu'en fait, on a développé le réseau d'une manière relativement désordonnée. Aujourd'hui, il suffit d'aller en campagne pour voir l'état des réseaux électriques à certains endroits. En fait, on a tiré des câbles. L'idée, c'était alimenter la France. Donc, du coup, on ne sait pas où sont ces réseaux, on ne sait pas comment ils se développent. Et quand, par exemple, un élu décide de faire une chaufferie bois, généralement, très rapidement, vous avez un ou deux opérateurs, je les ai cités, donc pas besoin de les reciter, qui vient proposer une autre solution, généralement avec du gaz, de l'électricité, si possible, avec un logo vert dessus. Voilà. Et résultat, la chaufferie bois, une fois sur deux, il y a d'autres solutions qu'on trouve. Et effectivement, la difficulté pour l'élu, c'est de dire, attendez, là, vous venez me parler parce que vous êtes les concessionnaires, au sens de la concession, de mes réseaux. Vous êtes en train de parler de mes réseaux de gaz et d'électricité que vous voulez faire passer à l'endroit où moi je veux faire une chaufferie bois. Mais moi, en tant qu'élu, en tant qu'autorité de service public, je ne veux pas que le réseau de gaz et d'électricité passe à cet endroit-là. J'ai prévu de faire une chaufferie bois. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire parce que les enjeux sont forts. Il faut savoir que derrière l'électricité, par exemple, il y a une taxe qui s'appelle la taxe locale d'électricité qui représente des montants phénoménaux. C'est 8% de nos factures, 8 à 12 même. Donc tout ce qui est la facture que vous payez en fin de mois, il y en a 12% qui revient d'une manière ou d'une autre vers les collectivités locales. Donc forcément, la relation avec ces grands groupes n'est pas évidente. Ce n'est pas une relation qui vous laisse une indépendance absolue en matière de décision. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est se réapproprier les questions. Se dire, cette piscine, c'est moi qui l'ai construite. Donc, moi, collectivité locale, moi, ville de Paris, moi, etc. Donc, je vais décider ce qu'il y a dessus. Cette chaufferie bois, je vais la faire, donc le réseau gaz ne passe pas. Et on le voit aujourd'hui, parce qu'on a parlé un peu du passé, il faut peut-être qu'on parle du futur, ce qui est assez inquiétant.
C'est très bien, allez-y.
D'accord. Ce qui est assez inquiétant, c'est qu'on pourrait, en nous écoutant, on pourrait se dire, bon, on a compris la leçon. On ne va pas faire pareil, on va faire différemment.
Moi, il me semble qu'en vous écoutant, on commence par se dire, finalement, la situation est encore plus terrifiante qu'on imaginait. C'est-à-dire, on a le sentiment que ça devient extrêmement difficile de se réapproprier quoi que ce soit.
Si on veut être positif, les marges de manœuvre sont énormes. Voilà. Les marges de manœuvre sont immenses. Hein, quand on gaspille, généralement, la chasse au gaspillage est assez facile à faire.
Ouais. Alors, les marges de manœuvre sont immenses. On va y venir. Avant, on va peut-être faire un état des lieux de qui, aujourd'hui, peut faire quoi. C'est-à-dire, vous avez parlé des élus comme de gens qui n'ont pas été nécessairement formés. Est-ce que c'est simplement le rôle des experts ? Est-ce qu'il faut impliquer d'autres personnes qui existent ou qui n'existeraient pas encore ? Est-ce qu'il faut créer des nouveaux métiers ? Est-ce qu'il y a besoin de formation ? Enfin, vous voyez, la question des êtres qui, aujourd'hui, peuvent prendre cette question en main. Est-ce que ce sont uniquement une poignée d'experts dont vous faites partie ? Ou bien est-ce que c'est plus large que ça ? Qui doit intervenir aujourd'hui ? Gérard Magnin.
Je pense que les experts, ils sont là pour être à leur place, mais ce n'est pas les experts qui remplacent les changements culturels nécessaires d'une société. Donc, c'est des modifications d'ordre culturel. Et je crois que, pour peut-être contrebalancer une image qui peut être un petit peu négative, je pense qu'on peut voir que toutes les innovations en France sur les questions dont on parle sont venues du niveau local. C'est là où a été fait la relance des tramways. C'est là où fait la relance des vélos. Ce n'est pas Paris, ce n'est pas un ministère quelconque qui a dit un jour, on va redémarrer les politiques vélos. C'est là où on a développé les politiques d'énergie renouvelable, de bâtiments basse consommation, maintenant de quartiers, d'éco-quartiers, etc. Donc, en fait, on s'aperçoit, même dans notre pays, où la tradition est centralisée, que les initiatives sont venues de la base pour peu qu'on a pu fournir les éléments, soit que la législation a pu les fournir, soit qu'on a pu trouver dans l'ensemble des activités qu'on fait, eh bien, des occasions d'agir. Bien sûr, on a dans les pays fédéraux une image différente à cet égard, parce que l'autonomie locale étant plus grande, la capacité d'initiative locale est plus grande, et donc du coup, comme on doit aujourd'hui, un des facteurs du changement, c'est la capacité d'innovation qui nécessite d'expérimenter, qui nécessite aussi parfois de tâtonner, qui nécessite de faire de façon limitée à un moment. Quand par exemple la ville de Bonn en Allemagne dit qu'aujourd'hui il n'est plus possible d'acheter ou de vendre un terrain si la construction ne soit pas au minimum construction passive, c'est-à-dire 6 fois moins de consommation que la réglementation thermique. C'est un règlement d'urbanisme de la ville de Bonn. D'autres villes suivent cet exemple. Eh bien, il est probable que d'ici quelques temps, l'État fédéral allemand dise aujourd'hui, eh bien, ce sera la règle. Quand on est en France dans un mode de fonctionnement où tout doit être la même chose, qu'on soit à Strasbourg, à Perpignan ou à Dunkerque, et que les modifications dans ce domaine-là, par exemple de l'urbanisme, doivent présider d'une décision centrale, forcément, on ne peut pas d'emblée prendre une décision comme je viens là de l'indiquer. Mais donc,
donc, un des freins, là encore, une fois de plus, ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, évidemment, vient de la centralisation. Oui. Même si on est aujourd'hui, en principe, dans un processus de décentralisation.
Oui. Je vais prendre d'autres freins qui se passent au niveau local. Par exemple, comment ça se passe pour les déplacements, qui est responsable de quoi? On prend un cas. Une agglomération a comme fonction l'organisation des déplacements et des transports. C'est sa fonction. Mais les parkings, c'est la commune. Donc, si on veut faire une organisation coordonnée au niveau d'une agglomération et qu'on n'a pas la gestion, la politique de parking avec la politique de déplacement, on voit que c'est un peu difficile. Le département a la responsabilité on peut dire, pour aller vite, des autobus pour les transports scolaires et autres. La région a les transports, les TER. Mais aucune autorité n'a autorité sur les autres. Et aucune coopération autre que volontaire, là où les gens ont la bonne volonté de le faire, existe. Et donc, on a une superposition de schémas qui ne s'emboîtent pas les uns dans les autres et souvent des gaspillages d'argent public. Quant à l'urbanisme, parce qu'on est dans l'urbanisme quand on est dans la question des déplacements. Mais la compétence d'urbanisme, c'est une compétence d'un maire. Donc il y a 36 000 urbanistes en chef en France. Quand on veut organiser une agglomération, est-ce que ça a un sens que la décision de là où on va construire, du permis de construire, du nombre de constructions qu'on va faire, de tel type, etc., dans une, par exemple, une agglomération d'une cinquantaine de communes, que ce soit l'affaire uniquement exclusive du maire de telle commune, etc. Comment on peut construire quelque chose de cohérent avec ça? Alors, bien sûr, il y a des schémas de cohérence territoriale, mais en fait, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Et on a un peu l'impression, si je fais une analogie, imaginez la chose suivante. Quand on construit un immeuble, on a planifié qu'on allait construire un immeuble. On sait le nombre d'étages qu'on va faire, on sait comment il va fonctionner. On ne commence pas à dire on va faire 2 étages, et peut-être après on en fera un troisième, puis si on en fait assez, peut-être après on fera un ascenseur, etc. Et quand on regarde l'organisation de l'espace, on fait comme si on fabriquait un immeuble en commençant, il y a un petit bout au 18e étage qui va commencer avant celui d'avant, et puis l'ascenseur, les moyens de transport, on verra bien au bout d'un moment. On organise l'espace urbain comme ça, alors qu'on s'aperçoit que c'est hors de toute logique. Or, une des questions cruciales aujourd'hui, et qu'on retrouve dans le Grenelle de l'environnement, parce qu'on peut en dire un mot, le Grenelle de l'environnement dit que maintenant, propose en tout cas dans la loi, dans le projet de loi, qu'une des fonctions de l'urbanisme, c'est maîtriser les consommations énergétiques et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est nouveau. Jusqu'à présent, c'était hors du champ de l'urbanisme. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Quand ensuite, on dit que ils devront être réalisés des plans climat-énergie territoriaux. Tout le Grenelle et les réflexions antérieures ont dit ça, c'est l'intercommunalité, c'est là où les gens vivent, se déplacent, etc. Eh bien, qu'est-ce que dit le projet de loi aujourd'hui? Eh bien, les plans climat-énergie territoriaux seront faits non pas pour les intercommunalités, mais pour les régions, les départements, les communes, et l'intercommunalité a disparu. On voit là qu'on a cette espèce de guéguerre entre aussi chacun veut garder son précaré, parce que, bien entendu, si un jour il y a un plan climat-énergie territorial sur un territoire, les documents d'urbanisme devront être en cohérence avec ça. Et si ce plan dit que d'ici 15 ou 20 ans, on doit réduire de 20% les consommations, etc., les documents d'urbanisme devront être en relation avec ça. Et comme les maires ont peur de perdre leurs compétences urbanistes pour la déléguer à une intercommunalité, eh bien, il y a le frein global sur ce sujet. J'espère que le Parlement va pouvoir le changer, mais pour l'instant, nous en sommes là. Donc les freins sont beaucoup, sont aussi dans la forme de la décentralisation française, qui a voulu conserver tous les échelons, on a rajouté d'autres, sans qu'aucun ne puisse se prévaloir d'une coordination sur les autres. Et on a une forme de balkanisation qui ne va pas dans le sens du développement durable. On ne voit pas par quel hasard ce foisonnement de lieux de décision différents produirait un résultat vertueux.
Alors, je ne vais pas retourner le couteau dans la plaie, mais l'un et l'autre, vous ne cessez de vouloir être positif, mais vous avez du mal à tenir. Alors, bon, c'était un peu de ma faute parce que j'ai posé la question des freins, mais tout de même, si on essaye maintenant, effectivement... on a à peu près compris la situation, on a vu qu'elle n'était pas formidable, mais qu'en même temps, vous l'avez dit, Nicolas Garnier, les marges de manœuvre sont immenses. Il y a une prise de conscience, il y a une volonté générale, je pense réelle, aujourd'hui, de s'attaquer à ces questions et de faire quelque chose, d'agir. Donc si maintenant on va du côté des marges de manœuvre et qu'on essaye peut-être à l'aide de quelques exemples pris ici ou là, et par là j'entends des pays étrangers, Gérard Magnin, et puis peut-être même qu'ici, Nicolas Garnier, vous aurez quelques exemples à nous donner, j'aimerais qu'on arrive à mieux saisir ce qu'il est possible aujourd'hui de faire, et puis peut-être entendre quelques mots que je m'attendais à entendre plus tôt dans l'émission, comme celui de redensification urbaine, par exemple. Allez, qui prend la parole ? Nicolas Garnier.
Sur l'urbain, Gérard est mieux placé que moi, mais sur les bonnes pratiques, c'est vrai qu'en fait, en France, on a aussi plein de gens qui font plein de choses. Il y a effectivement cette espèce de millefeuille un peu compliquée qui fait qu'aujourd'hui, une commune, une interco, un département, une région est capable de faire, mais effectivement, on peut voir ça du bon côté. Tout le monde a sa part du gâteau ou du travail à réaliser dans la chasse anti-gaspi. Alors, généralement, on dissocie ça en deux grandes parties du gâteau. Je produis mieux, je consomme mieux, hein, pour faire très simple. Au milieu, il y a la distribution, mais j'en ai déjà beaucoup parlé. Sur la consommation, il y a quand même un certain nombre de collectivités qui ont fait une chose toute bête, c'est qu'elles ont essayé de savoir ce qu'elles consommaient. Ça peut vous paraître idiot, mais en réalité, je suis sûr que si je posais la question dans la salle, là, si je vous demande votre consommation de votre voiture, je crois que vous allez me répondre. Si je vous demande la consommation de votre appartement ou de votre maison, vous ne me répondrez pas. C'est-à-dire que pour économiser de l'énergie, la première chose à faire, c'est la connaître. Donc, un certain nombre de collectivités ont mis en place des tableaux de bord, des outils de travail qui leur permettent, qui se sont rendus compte en se comparant, et c'est là le rôle, c'est la page de pub de réseau un peu comme les nôtres, c'est d'aller voir son copain d'à côté et de se dire, tiens, ta piscine, elle consomme tant, moi, je la consomme trois fois plus, j'ai un problème, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, mais moi, je n'ai pas pris les mêmes pompes.
Essayez de mettre école à la place de piscine.
C'est vrai, vous préférez les écoles ? Alors, allons-y pour les écoles. Mais ça revient à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez la connaissance de vos consommations, vous avez la possibilité de vous rendre compte quand est-ce que vous gaspillez. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas. Et donc, beaucoup de collectivités ont mis en place ces logiques de tableau de bord, de consommation d'énergie. Ensuite, pour un certain nombre, elles ont voulu faire un travail de sensibilisation auprès de leurs habitants. Il y a une technique qui marche très très bien, qui consiste à faire de la thermographie aérienne. C'est un peu gadget, mais ça a un effet bœuf. C'est-à-dire que vous faites passer un hélicoptère avec un système de capteurs, et puis ensuite, vous montrez la photographie infrarouge ou thermo-infrarouge de vos territoires, dans vos mairies ou dans des lieux publics. Et vous dites, tout d'un coup, vous vous rendez compte que dans votre rue, au 17 de la rue Anatole France, en fait, c'est vous et vous avez un énorme point rouge. Donc, ça veut dire que votre bâtiment est très mal isolé. Mais généralement, si on fait bien les choses, c'est le cas par exemple de Dunkerque qui est connu pour ça, à 30 mètres de la photo qui vous montre que vous êtes en point rouge sur votre bâtiment, on vous propose un taux réduit, un taux bonifié pour emprunter, pour faire une isolation de vos combles. Voilà. Alors ça, c'est fait par des collectivités locales qui vous mettent un peu la main à la pâte d'une certaine manière. Vous avez également des collectivités qui essayent d'utiliser les nouveaux outils qui sont proposés par le gouvernement, en particulier ce qu'on appelle les certificats d'économie d'énergie. Vous savez qu'il y a un nouveau marché qui s'est créé, qui est intéressant. C'est une logique de marché, on aime, on n'aime pas, mais consiste à dire, finalement, le kilowattheure, il a une valeur, le kilowattheure économisé, il en a une aussi. Et on va se vendre du kilowattheure économisé. Et à ce moment-là, enfin, ça a été le rôle en particulier d'Amorce de dire « mais nous aussi, on va en faire du kilowattheure économisé et on va le vendre ». Et donc, du coup, on a comme ça la ville de Blois, la ville de Lyon qui sont en train de monter des dossiers de certificats d'économie d'énergie qui vont ensuite être vendus à ceux qui sont dans l'obligation de faire ces économies, à savoir les fournisseurs. Donc ça, c'est des choses peut-être un petit peu plus subtiles à mettre en œuvre, mais qui sont intéressantes également. En termes de production, alors là, c'est la foison aujourd'hui. qui vraiment se développe énormément actuellement en milieu rural, c'est les réseaux de chaleur au bois, c'est-à-dire des endroits où le gaz ne va pas, où le fuel est de plus en plus cher. On voit aujourd'hui, nous, à Morse, on décompte à peu près une centaine de réseaux de chaleur bois, et il n'y a pas une semaine où on n'a pas un élu local qui nous dit « Écoutez, j'ai une commune de 500 habitants, j'ai une école, une mairie, j'ai
réussi, piscine, allez.
C'est bon. » Et non, bah, généralement, 500 habitants et une piscine, c'est qu'il y a une centrale nucléaire à côté, ce n'est pas possible autrement. C'est vrai en plus.
Vous voyez
mais donc, et qui me dit « Est-ce que je peux faire un réseau de chaleur? Est-ce que j'ai le bois à côté ?» etc. Donc là, il y a vraiment énormément, il y en a 80 en France, de plus ou moins grande taille. Vous avez le développement des parcs éoliens qui s'est en grande partie fait grâce au soutien des collectivités locales. Hein, il faut quand même le dire que quand, à un moment donné, on a battu la campagne pour trouver des emplacements pour les éoliennes, il a bien fallu des élus pour dire « moi j'assume d'avoir un parc éolien sur mon territoire hein. ». Il y en a qui sont allés plus loin en disant « mais les éoliennes, c'est moi qui vais les construire ». Donc on a aujourd'hui des sociétés d'économie mixte, on a des régies de collectivités locales qui ont construit des éoliennes, qui produisent de l'électricité.
Bah, là, on est vraiment dans ce processus de réappropriation que vous évoquiez
Absolument.
À l'heure, et réappropriation non seulement de la maîtrise de sa propre consommation, mais de la production.
Exactement, exactement.
De fait.
Ouais. Donc l'idée, c'est effectivement à terme de revenir à une certaine forme d'autonomie des territoires en énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une logique très centralisée, où finalement, c'est des grands outils, des centrales principalement, qui alimentent. Mais si demain, on disait, ben voilà, tel territoire, tel, à l'échelle d'un département, on essaye d'être autonome en énergie. C'est-à-dire, un, on va essayer de consommer moins, et deux, on va essayer de produire un peu plus, si possible, avec des bonnes énergies. Là, on re-responsabilise le territoire et on re-responsabilise forcément, par voie de source, la population qui va avec.
Avec quelles conséquences économiques ?
Bonne, très bonne. Vous créez de l'emploi, vous créez beaucoup d'emplois. Dans la sylviculture, on en a créé énormément. Dans la construction, on peut en créer beaucoup. On entend ça et là que la construction coûte cher, mais la construction, elle coûte déjà, la construction basse consommation, elle coûte pas si cher que ça. Il faut casser cette idée reçue.
C'est pas il y a un surcoût.
Globalement, il y a un surcoût hein, qu'on estime aux alentours de entre 15 et 30% et encore. C'est plutôt 15 aujourd'hui, hein, on va dire 15. Mais moi, je préfère dire qu'il y a un petit surcoût quand même, plutôt que de dire tout ça. Il faut pas être angélique en la matière. Par contre, à l'inverse, vous créez de l'emploi, vous allez. Si aujourd'hui, ce qui manque, par exemple, dans le domaine des opérateurs solaires, il n'y a pas tant d'opérateurs qui sont capables de vous construire un panneau solaire thermique ou photovoltaïque sur un territoire. Hein. De même, pour vous poser des matériaux d'isolation un peu écologiques, qui ne sont pas très nombreux. Hein. Et effectivement, l'offre a du mal à se structurer. Donc ça, c'est aussi une difficulté. Mais c'est vrai que les collectivités, là, dans leur rôle de développement économique local, ont un rôle essentiel à jouer. Hein. C'est aussi comme ça qu'on fait de l'emploi.
Donc ce rôle essentiel, effectivement, il commence à être assumé. Si on revient maintenant sur l'urbanisme, Gérard Magnin, je posais la question de la redensification urbaine, mais peut-être que vous voulez dire un mot là aussi sur la question des coûts économiques.
Je voudrais, avant d'aller sur la densification ou la redensification, je voudrais indiquer une information sur la question des coûts. Parce que tout changement d'habitude nécessite un coût d'apprentissage. C'est normal. Les métiers n'ont pas l'habitude, donc on doit apprendre quelque chose. Et il y a toujours une cloche dans la courbe de coût. Simplement, plus on absorbe cette courbe sur un plus grand nombre d'équipements, et puis plus cette courbe est facilement acceptable. Il faut éviter que chacun fasse son prototype dans son coin, super sophistiqué, comme on sait assez bien le faire en France. Aujourd'hui, on fait de la construction passive en Allemagne avec des surcoûts de 5 à 7%. Construction passive, donc 6 fois moins que la réglementation thermique. Donc ça, c'est un moment à passer qui ne doit pas occasionner de rente particulière de situation, mais on sait qu'à un moment donné, il doit passer. La question de l'économie de l'économie locale. Garder l'argent à la maison, c'est quelque chose qui doit devenir un slogan pour l'ensemble des collectivités locales. Garder l'argent que l'on dépense pour l'énergie sur le territoire. C'est-à-dire déjà ne pas le dépenser ou l'avoir dépensé pour faire des travaux qui vont améliorer le système et puis pouvoir ensuite, quand on la dépense, l'utiliser au plus près possible du territoire. Quand la ville de Växjö, une ville de 70 000 habitants en Suède, décide en 1995 qu'elle serait zéro énergie fossile à l'horizon 2010. Et aujourd'hui, sur le chauffage, elle est à 84%. Sur toutes énergies confondues, chauffage, électricité, elle est à 57%. Les élus, quand ils ont fait cette décision, le maire raconte, il dit, on est sorti de la réunion, on ne savait pas si on était fou ou quoi, si c'était possible, mais ça n'a pas d'importance, ça nous a libéré l'imagination, et depuis ce moment-là, eh bien, à chaque fois qu'il y a une opportunité, on pense comme ça. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Pour revenir, aller sur la densification. Il n'y a pas d'urbanisme durable, il n'y a pas de ville durable, s'il n'y a pas des masses critiques d'habitants et d'activités mixés du point de vue intergénérationnel, du point de vue social, du point de vue fonctionnel à un même endroit.
Essayez de redire ça d'une manière.
C'est-à-dire que.
Moins technique.
C'est-à-dire que, entre. Déjà, on a une idée fausse de la densification en général. Quand on dit qu'est-ce qui est dense, on cite grands ensembles. Or, les grands ensembles sont trois fois moins denses que le Paris haussmannien. Et les gens s'y plaisent, et d'ailleurs, vu le prix des appartements, il y a une certaine demande pour ça. Donc, déjà, le mot dense est associé à quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Ensuite, entre les grands ensembles et la maison individuelle, on ne parle à peu près jamais rien de cette zone intermédiaire, sauf pour faire des placements financiers, pour bénéficier de crédits d'impôt, pour placer son argent, etc. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Quel est l'enjeu de l'urbanisme aujourd'hui ? Quand je disais tout à l'heure qu'on n'a rien inventé en matière d'urbanisme depuis les grands ensembles, c'est précisément retrouver des formes de quartier avec une masse critique suffisante qui permette, un nombre de personnes suffisant qui permettent d'avoir des services privés avec la rentabilité nécessaire pour qu'elles y soient, des services publics qui coûtent le moins possible, qui aussi est le meilleur avantage coût-bénéfice, qui permettent aux gens d'avoir, comme on dit, tout sous la main, tout simplement. Et chacun sait bien que c'est la contrepartie d'une certaine densification. Moi, j'habite dans un quartier où, au comité de quartier, les gens se plaignent, ils disent « on construit encore dans notre quartier ». Et puis, cinq minutes après, ils disent « c'est bien ici, on fait tout à pied, on a tout sous la main ». Effectivement, donc c'est la question comment on pose les différents termes que l'on a à comparer chacun dans sa vie. On a vécu et on vit encore une société où on a découpé l'individu en tranches en autant de segments de marché d'une certaine façon. Eh bien, l'heure est revenue de recentrer sur l'humain.
Ça, c'était un beau mot de la fin. Nicolas Garnier, vous vouliez en ajouter un ? Ça sera vraiment le mot de la fin.
Alors, c'était peut-être un petit peu sur la question des coûts, parce que à chaque fois qu'on pense coût, en fait, il faut penser coût global. Et ça ne vous viendrait pas l'idée de comparer, quand vous allez d'une ville à l'autre, le prix de l'essence avec le prix d'un ticket de train. J'espère que vous ne le faites pas, en tout cas. Parce qu'en fait, vous avez oublié plein de choses. Vous avez oublié le prix de la voiture, vous avez oublié le prix de l'assurance, vous avez oublié, etc. Et généralement, quand on parle d'énergie, on a cette mauvaise habitude de comparer une énergie sans regarder l'outil qui va l'utiliser. Et effectivement, généralement, les choses qui consomment moins d'énergie coûtent un peu plus cher, mais généralement, on les amortit. Donc moi j'ai tendance à dire, c'est pourtant pas mon genre, à dire faut qu'on pense un peu plus bon père de famille, je l'ai dit au début, avoir des raisonnements simples, des raisonnements de bon sens, et normalement de nous-mêmes ces économies vont avoir lieu.
Et de fait, une fois qu'on aura lu l'élu, l'énergie et le climat de l'association Amorce et pour un nouvel urbanisme de Denis Clerc, Claude Chalon, Gérard Magnin et Hervé Vouillot, eh ben on aura retrouvé pas mal de bon sens et un certain nombre de connaissances fort utiles. Je vous remercie l'un et l'autre d'avoir participé à cette émission que vous pourrez télécharger pendant une semaine sur notre site franceculture.com et vous y retrouverez la revue de web hebdomadaire, les émissions des deux mois précédents. Notre numéro de téléphone pour tous ceux qui voudraient avoir la bibliographie, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, c'est Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre, qui vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation, Laurence Gentin, Anne Gouzon, prise de son et mixage au Phytobar, Pierre Comon, Christophe Goudin, réalisation, Olivier Bétard. Bonne semaine à tous.